Albert Spaggiari, ce type-là, en 1976, en juillet, à Nice, a signé un coup extraordinaire, monumental, génial, diront certains. Il est parvenu à entrer dans la salle des coffres de la Société Générale en passant par les égouts. Avec ses complices, en un week-end, il a fracturé 317 coffres et s'est envolé avec 5 milliards de centimes, 50 millions de francs de l'époque. Une somme astronomique. En quelques semaines, Spaggiari est devenu une star dans l'univers des gangsters et du fric-frac, une star aussi auprès du grand public, puisque Spaggiari, en cavale, donne des interviews et joue les gentlemen cambrioleurs. Sur la porte de la Société Générale de Nice, Spaggiari avait laissé ce petit mot. Ni armes, ni violence, et sans haine. Sans haine? Pas sûr.
Fabuleux hold-up découvert hier à la Société Générale de Nice. Les cambrioleurs ont travaillé pendant tout le week-end.
On parle déjà du cambriolage du siècle. Les gangsters auraient volé pour 5 ou 6 milliards d'anciens.
316 coffres fracturés sur plusieurs milliers, des coffres situés dans 8 immenses placards blindés, 6 placards contenant des compartiments individuels, un placard contenant les espèces à la disposition de la banque.
Mardi 20 juillet 1976, les clients viennent d'apprendre le casse par la radio. Il paraît que la banque est au courant depuis la veille. Ils sont furieux de ne pas avoir été prévenus plus tôt.
Le vôtre était ouvert, madame?
Oui, oui.
Et on vous a pris beaucoup?
Ah, je sais pas. Je suis à la COP depuis 40 ans, j'ai le téléphone. Ils ont mon nom. Ils pouvaient me prévenir hier.
La rumeur dit que la salle des coffres est éventrée, que le casse est gigantesque. Certains clients font du camping sur le trottoir dans l'attente d'informations plus précises.
Cette foule avide de renseignements et puis très traumatisée se pressait contre les grilles en brandissant les clés de leur coffre et en essayant d'obtenir des renseignements de la part des vigiles ou des policiers. Moi, je suis le 524. Est-ce que le 524 a été ouvert? Et puis, ça a duré plusieurs jours comme ça. Et il n'y avait aucune information qui leur a été communiquée.
Phénoménal, monumental. La presse se régale de superlatifs à la simple annonce du casse. Alors on peut imaginer ce que les journaux vont titrer quand ils sauront comment les casseurs sont entrés dans la banque.
Cette armoire du fond avait été poussée et renversée par terre grâce à, je pense, à un vérin, enfin, hydraulique.
Derrière l'armoire qui a effectivement été renversée par un vérin hydraulique, il y a ce tunnel qui va jusqu'aux égouts. Les égouts qui passent à 8 mètres exactement de la salle des coffres. Il n'y a plus qu'à refaire le parcours à l'envers pour suivre les cambrioleurs. À partir de la salle des coffres, le fameux boyau de 8 mètres creusé dans la roche, puis les égouts sous la rue Sacha-Guitry, parallèle à la banque, et qui se poursuivent ensuite à gauche, sous la rue Gioffredo, et puis à droite, sous la rue Chauvin, vers la rivière souterraine du Paillon. Une rivière qui se faufile sous la ville de Nice et que les casseurs ont parcouru sur près d'un kilomètre et demi avant de ressortir à ciel ouvert derrière le palais des expositions. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce que les cambrioleurs ont semé derrière eux pour être certain qu'on est sur le bon chemin. Des centaines d'outils jonchent les égouts. On se croirait au rayon bricolage d'un grand magasin. Les policiers remontent par dizaines des burins, des vérins, des lampes, des perceuses, des chalumeaux, des bouteilles d'oxygène. De quoi remplir plusieurs fourgons de police. C'est un casse à gros budget. On commence à parler d'un butin de 50 millions de francs. Et puis il y a ce slogan retrouvé scotché sur un mur de la salle des coffres. Quelques mots griffonnés sur une feuille de papier. Ni armes, ni violence et sans haine. Sans armes, d'accord. Sans violence, c'est vrai, mais pourquoi sans haine? Dans la salle, on retrouve aussi tout un bric-à-brac sur le sol qui fait la joie des journalistes.
Dans ces coffres, évidemment, il y avait des valeurs, mais il y avait des photos intimes, entre guillemets, hein, même très intimes. Il y avait des paquets de biscuits, il y avait n'importe quoi. Il y avait des gens qui mettaient là-dedans des choses bizarres, hein, ou même une bouteille d'alcool, parce que madame ne voulait pas que Pépé boive à la maison, et il mettait sa bouteille de whisky ou de rhum dans le coffre de sa banque, et de temps en temps, il descendait au coffre pour boire un petit coup. Et on a découvert comme ça des choses extraordinaires. Hein.
Fâcheuse coïncidence, la Société Générale vient de signer une campagne de publicité pour ses coffres Fort Knox, solides, paraît-il, comme des bunkers de la réserve d'or américaine. Cela dit, à l'époque, la grande crainte, c'était les hold-up et personne n'envisageait sérieusement le casse des coffres.
On avait un travail extraordinaire des gouttiers, hein. Et puis on avait une salle des coffres réputée inviolable qui avait été entièrement cassée.
Il n'y avait jamais eu une affaire pareille. Après, il y a eu tous la volumétrie, tout ce que vous voudrez, tous ces moyens sophistiqués qui sont nés. Et ça a fait la fortune des gens qui s'occupent de la sécurité. Ça a sorti à ce moment-là. Mais là, il n'y avait rien.
Roger Naon, inspecteur principal, est l'un des premiers policiers à entrer dans la salle des coffres.
Roger Naon, je voudrais que vous me racontiez ce que vous voyez quand vous entrez dans la salle des coffres.
Eh bien, lorsque l'on rentre dans la salle des coffres, je crois que c'est un spectacle qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire, mais au sens littéral du terme. En ce sens qu'on voit un désordre indescriptible. Et alors, ce qui choque le plus, si vous voulez, c'est le sol. Le sol, on ne le voit pas. Il est couvert, il est jonché d'un tas de débris divers, de papiers, de documents, de bijoux. On ne saura pas si ce sont des bijoux de faible valeur. Parce que ce qui nous avait frappé, c'est qu'il y avait une petite table, à un endroit de la salle, qui manifestement, et on aura la confirmation plus tard d'ailleurs, manifestement avait servi à un tri. Et on pense que les casseurs donc apportaient systématiquement le contenu, en bijoux évidemment, des coffres, et les amenaient à un expert, entre guillemets, qui devait faire évidemment la part des choses.
Il était assis à la table, il triait.
Il devait trier, voilà.
Donc il jetait par terre.
Il jetait par terre, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a pensé qu'il y avait un tri de fait, puisqu'autour de cette table, il y avait pas mal de bijoux de pacotille. Quoi.
Quelle est la règle à l'époque en matière de police scientifique? C'est-à-dire qu'il ne faut rien toucher? En principe.
Non. Oui, mais alors là, c'est difficile de ne rien toucher. La règle, si vous voulez, dans ce domaine-là, en fait, c'est de mettre à part tout ce qui provenait des coffres des particuliers et de mettre de côté, évidemment, tout ce qui avait été abandonné par les malfaiteurs, notamment au niveau de l'outillage. Parce que c'est à partir de là qu'on avait une possibilité de remonter certaines pistes.
Donc, à l'époque, vous avez quoi comme technique à votre disposition? Les empreintes digitales?
Des empreintes, d'une part, et d'autre part, les références qui figurent sur le matériel, sur l'outillage. Il y a des numéros concernant des appareils, par exemple, et je crois qu'il y avait un petit aspirateur, par exemple, vous voyez. Il y avait une paire de lunettes de soleil avec une marque et une petite facture. Un étui à lunettes avec le nom d'un opticien d'Aix en Provence, vous voyez. Donc il y avait des éléments, quand même, qui ont permis, par la suite, évidemment, de remonter et d'avoir la conviction qu'il y avait une partie au moins de l'équipe qui venait de Marseille, de la région de Marseille.
Qu'est-ce que vous vous dites là les uns les autres? C'est quoi les conversations Je crois qu'on a passé la première minute.
On a dû dire certainement, c'est une belle équipe. On a dû dire certainement, je pense, c'est une belle équipe, c'est du beau milieu, quoi. Ça, c'est le grand banditisme, incontestablement.
Nice s'est donc réveillée avec le casse du siècle à la une. Et quand les gendarmes de Plan du Var, dans l'arrière-pays niçois, ouvrent le journal, cette affaire leur rappelle quelque chose.
On découvre dans le journal le casse de Nice, les coffres de la Société Générale, en gros titre. Bon, on n'a pas de suite fait le rapprochement dès l'ouverture du journal, mais quand même.
Mais oui, bien sûr, c'était une semaine avant le casse. Le 9 juillet, dans cette maison de Castagnier, la maison est vide, elle est en travaux, des voisins aperçoivent des rôdeurs, ils préviennent le maçon qui travaille sur le chantier, et le maçon tombe sur quatre individus bizarres. Ils ont l'air d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Les gendarmes de Plan du Var sont alertés, et immédiatement, ils filent à Castagnier. Mais pendant ce temps-là, les quatre rôdeurs ont disparu, sans doute alerté par la visite du maçon. Mais en début de soirée, les quatre sont de retour, et les gendarmes aussi.
On a vu de suite quatre individus à l'intérieur, non pas de la villa, mais dans la cour de la villa, quatre individus qui étaient assis là avec deux véhicules. Et déjà de loin, on s'est aperçu que ces individus n'étaient pas très nets. Ça, c'est le feeling. Hein. On a bien senti que ces gens-là, pas des jeunes, hein, des gens déjà d'un certain âge, n'étaient pas nets.
L'un des individus s'avance vers les gendarmes. Apparemment, il veut jouer les porte-parole.
Il s'est avancé, je lui ai demandé bon, qu'est-ce qu'il faisait là, à quel titre il était là. Là, il était très ennuyé, pas très sûr de lui quand même, hein, malgré bon, un certain look, mais pas sûr de lui. Il dit, bon voilà, on est là parce que on veut louer la villa. On veut louer la villa, mais à qui appartient ce village? Non, on ne sait pas, on a eu les clés par un type qu'on ne connaît pas sur la plage. Il dit, écoutez, monsieur, là, vous êtes gentil, mais enfin bon, quand même, il faudrait nous trouver autre chose. Ça tient pas. Bon, alors, en fait, on est là pour une histoire de filles, on attend des filles. Tant et si bien, j'ai dit à un moment, j'ai dit, bon, écoutez, monsieur, vous allez nous donner vos pièces d'identité.
Ces types-là n'ont pas l'air de petits voyous du coin. Le fameux porte-parole s'appelle Dominique Poggi. Celui-là, avec sa tête de gamin, c'est Daniel Michelucci. Et celui qui n'a pas de papier dit s'appeler Alain Ponce. Le quatrième s'appelle Duché. Les gendarmes viennent d'achever leur contrôle quand tout d'un coup, en contrebas de la maison, ils entendent une voiture démarrer sur les chapeaux de roue, comme si elle s'apprêtait à grimper jusqu'à la villa et que la présence des gendarmes avait fait fuir le conducteur. Du coup, les gendarmes décident d'embarquer tout le monde. Direction la plage de Saint-Laurent-du-Var, histoire de vérifier cette histoire de restaurateur qui était censé leur donner les clés de la villa. Et là, le fameux Poggi fait son numéro.
Poggi s'est précipité, hein, nous a poussé un peu, il s'est précipité vers le restaurateur en question, l'a étreint, et ils ont parlé. Mais ils ont parlé 10 secondes, mais ils ont parlé.
Impossible de savoir ce qu'ils se disent. En tout cas, juste après, le restaurateur confirme mot pour mot l'histoire aux gendarmes. Oui, c'est lui qui a donné les clés dans le but de louer la maison. Du coup, tout le monde est relâché, un peu trop vite sans doute, car après enquête, il s'avère que les quatre énergumènes sont connus dans le milieu marseillais. D'ailleurs, le lendemain, le 10 juillet, un indique appelle les gendarmes.
Vous avez bien contrôlé quatre individus dans une villa castagnée hier au soir? Bah, oui, comment vous le savez? Je sais, c'est vrai. Dit oui, c'est vrai. Dit bah, écoutez, si vous avez les noms, gardez-les précieusement, parce qu'ils nous préparent un gros coup dans la région.
Mais entre-temps, les quatre ont disparu. Une semaine plus tard, le casse du siècle. Et là, les gendarmes reçoivent un nouveau coup de fil de leur indique, qui leur dit que les quatre en question étaient bien dans le coup de Nice. Ils décident de fouiller la villa.
Nous avions trouvé des bottes pleines de terre, et l'analyse de la terre sur les bottes a prouvé, sans discussion, que cette terre provenait bien des égouts. C'est une terre particulière, une boue particulière. Donc on a trouvé aussi des bouteilles de vin, les mêmes qui avaient été trouvées, enfin des mégots, différents éléments matériels qui prouvaient qu'effectivement les gens dans les égouts étaient passés dans cette ville-là.
Les gendarmes alertent la police judiciaire de Nice. Des policiers qui, entre-temps, ont fait le rapprochement avec une autre affaire. C'était un soir à Nice, un mois avant le casse. Ils avaient arrêté deux hommes en train de charger dans le coffre de leur voiture des pointerolles, des burins de maçon. Et leurs explications avaient été pour le moins embrouillées. L'un d'eux s'appelait Daniel Michelucci, le même gamin qu'à Castagné. Et l'autre, c'était Gérard Vigier, qui à Castagné disait s'appeler Alain Ponce.
Donc, deux pistes en ce début d'enquête. D'abord, à Nice, un mois avant le casse, des policiers niçois se souviennent avoir interpellé au cours d'un contrôle de routine deux individus qui chargeaient des pointerolles, des burins de maçon, dans le coffre d'une voiture. Deux hommes fichés au grand banditisme qui s'appellent Daniel Michelucci et Gérard Vigier. Ils les ont laissés repartir, ils n'avaient rien à leur reprocher, mais avec du recul, évidemment, c'est dommage. Et puis, une semaine avant le casse, les gendarmes de Plan-du-Var avaient repéré l'étrange manège de quatre hommes dans une villa de Castagné. C'est ici, juste au-dessus de Nice. Quatre hommes fichés eux aussi. Michelucci, encore lui, un certain Alain Ponce qui s'avérera être Gérard Vigier, et Dominique Poggi. Là aussi, avec le recul, la maison ressemblait à une planque. Poggi, Michelucci, Vigier, ces trois noms conduisent tous au même endroit, Marseille et le milieu marseillais.
Et tous les trois sont de bons amis de Zampa, Gaëtan Zampa, le parrain de Marseille. Ça serait donc un coup du milieu marseillais. Les policiers voient mal les caïds se salir les mains dans les égouts, mais faute de mieux, explorons cette piste.
Faute de renseignements, on a commencé par chercher chez nos clients habituels,
Ah, les orpas, le mat, on a dit. Ah. Puis vous savez, les policiers, ils sont comme tout le monde. Après une journée de travail, ils vont au restaurant. Et là, les discours s'enflamment et les imaginations aussi. Et c'est peut-être Jackie le mat, et c'est peut-être Zampa, et c'est peut-être Francis le Belge, et c'est peut-être un tel ou un tel. Et pour savoir si c'était eux, on ne va pas leur demander. Donc il y a eu tout un travail improductif de vérification, de surveillance, de filature, de renseignements, de traque d'informateurs, et ça a été longtemps le bleu le plus absolu.
Seulement voilà, il y a belle lurette que Zampa et ses amis sont aux abonnés absents. De Marseille à Aix-en-Provence, en passant par Toulon et Paris, les policiers harcèlent leurs indiques. Ça ne donne pas grand-chose. Alors qu'il est, le gang des égoutiers cambrioleurs doit déjà couler une retraite dorée.
Alors Dominique, il se trouve qu'un autre casse a lieu un mois après le casse de Nice, le 15 août, dans une autre agence de la Société Générale, ici à Paris, dans le quartier de l'île Saint-Louis.
Oui, et c'est exactement le même scénario qu'à Nice. Les malfaiteurs qui ont fait ça sont passés par les égouts, ils sont entrés par cette porte, là.
Sur le quai de Seine.
Sur le quai de Seine, pour rejoindre l'agence de la Société Générale qui se trouve dans l'île, la seule banque de l'île. Mmh. Et ils ont emprunté les égouts, ils ont remonté les égouts au niveau de la banque, casser le mur de l'égout, déblayer la terre.
Alors,
ça a été, oui, ça a été plus facile parce que c'est de la terre friable, c'est la terre du remblai de la Seine. Hein. Et ils ont étayé leur galerie pour se protéger des effondrements, construit des systèmes d'aération pour pouvoir respirer et arrivé devant le mur de la banque, eh bien, ils l'ont cassé, comme à Nice, et ils sont entrés dans la salle des coffres.
Et là, à l'intérieur ?
À l'intérieur, ils sont restés enfermés pendant le pont du 15 août.
Ouais, ça rappelle quelque chose.
Ça rappelle quelque chose. Ils ont éventré 130 coffres forts, 130 coffres sur les 190 qui se trouvaient dans cette agence. Ils ont mangé sur place.
Dormi sur place.
Avec des matelas pneumatiques. Et après, ils sont repartis en abandonnant ce qui ne les intéressait pas.
Alors évidemment, Dominique, à l'époque, on se demande si ça n'est pas la même bande qui est passée à l'action un mois plus tard à Paris.
Ça, en vérité, on ne le saura jamais. Le seul élément, c'est qu'un nom a été avancé dans les deux affaires, quelqu'un qui s'appelle Gérard Vigier.
Déjà 3 mois depuis le casse du siècle, et il faut bien l'avouer, l'enquête patine, la piste des Marseillais n'a rien donné. Et puis, à l'automne 76, coup de théâtre, un receleur, un fourgue, cherche à écouler des lingots d'or au Crédit Agricole de Roquefort-les-Pins, lingots répertoriés comme faisant partie du butin du casse de Nice. La police arrête sur place Francis Pellegrin et Alain Bournat, qui semblent n'être que des seconds rôles dans le fric-frac des égouts. Mais les deux hommes sont bavards. Et très vite, ils balancent le nom de leur boss. C'est un Niçois. Il s'appelle Albert Spaggiari.
Et quand on dit Spaggiari, on tombe un peu du placard. Car Spaggiari n'a rien à voir avec les autres. C'est un aventurier marginal, ancien de l'OAS, qui est plus un original musclé qu'un voyou.
Ce Spaggiari n'est pas chez lui. Il n'est pas non plus à son magasin. S'il est mouillé dans le casse, les policiers arrivent trop tard. On leur dit alors qu'il serait parti au Japon avec son épouse. Vacances ou cavale ? Élément troublant, pour se rendre au Japon, il a pris l'avion qui emmenait Jacques Médecin, le maire de Nice, secrétaire d'État au tourisme, en voyage officiel à Tokyo. Que ferait le cerveau du casse du siècle dans l'avion du maire de Nice ?
Des gens pouvaient participer au voyage en payant un forfait, quoi. Et lui, c'est ce qu'il avait fait. Il n'était pas l'invité de Jacques Médecin ni de la ville de Nice. Il avait payé son voyage et celui de madame.
En attendant de mettre la main sur Spaggiari, le 26 octobre 1976, à l'aube, la PJ lance à Marseille et à Nice un coup de filet dans les milieux du grand banditisme. Mais pas de chance. Une radio vend la mèche.
RTL 5e. Coup de filet policier aux abords de Marseille. Il pourrait s'agir de l'arrestation des auteurs du casse de Nice.
Il faut croire que les caïds écoutent la radio car la plupart ont pris le large. Les lascars de Castagnier en tête. Michelucci, Poggi, Vigier sont introuvables.
On a plongé un petit peu partout, mais vous savez, d'une opération classique, hein, des équipes de 3 ou 4 inspecteurs avec des gardiens. Tout tous les gens ont été interpellés. Et parmi ceux-ci, beaucoup de cris « Vous venez me chercher, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?»
Une vingtaine de suspects sont quand même arrêtés. La plupart sont relâchés. Seuls 6 sont présentés au juge. Le lendemain, le fameux Spaggiari est de retour du Japon. Le 27 octobre, à peine descendu de l'avion, le petit photographe déjeune dans une taverne en face du magasin de photos. Les policiers montent une embuscade. On trouve un prétexte pour l'appeler sur le trottoir. Spaggiari sort sans se méfier et il est neutralisé, sans opposer la moindre résistance.
Non, il s'est laissé faire comme étonné. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Étonné. Bon, c'est normal, comédien il était.
Peut-être aux renseignements généraux il était un peu connu, mais chez nous, délinquance pure, traditionnelle, il n'était pas connu.
Tout le monde a été tout à fait surpris. Hein. Des tas de gens ne connaissaient pas Spaggiari. Hein. Et en plus, c'était un honnête commerçant qui avait son petit magasin de photos dans un quartier à l'époque assez populaire, hein, à l'ouest de Nice, qui allait faire sa partie de 421 au bistrot d'en face. Où, voilà, c'était monsieur tout le monde.
Si effectivement ce monsieur tout le monde est bien le cerveau du casse de Nice, il est bien imprudent de revenir en ville 4 mois après. Et puis on n'a jamais vu un caïd aussi décontracté. Spaggiari parade avec des lunettes de soleil, un sourire narquois et un cigare barreau de chaise. Mais loin des caméras, devant les policiers qui l'interrogent, Spaggiari est moins loquace.
Il ne répondait pas directement aux questions. Il était toujours à côté, sûr de lui-même en quelque sorte.
Il esquive.
Ah oui, je pense qu'il avait intérêt à ne rien dire.
Les policiers aimeraient bien que ce Spaggiari soit le cerveau du casse du siècle. Mais franchement, il n'en a pas le calibre, il n'est pas affiché au grand banditisme, il ne fait pas partie du milieu. Comment ce type-là aurait-il pu recruter et diriger des truands, des vrais de vrais, pour un casse de cette ampleur? Ça paraît incroyable. De toute façon, Spaggiari nie farouchement, pas pour longtemps. Tout bascule quand les policiers découvrent chez lui, dans sa ferme Les Oies Sauvages, un véritable arsenal.
Les policiers ont embarqué au petit matin, Spaggiari toujours en garde à vue, pour aller perquisitionner la petite ferme qu'il possède à Bézaudun, dans l'arrière-pays niçois. La ferme est en fait une bergerie baptisée Les Oies Sauvages, une vieille maison de pierre isolée sur un flanc de colline au milieu du maquis. Et là, il trouve cachés dans des valises des pistolets automatiques, des pains de dynamite, des chargeurs, des pistolets mitrailleurs, la panoplie du parfait terroriste. On est bien loin du slogan retrouvé scotché dans la salle des coffres, sans violence, sans armes et sans haine. À Bézaudun, des armes, il y en a partout, jusque sur les murs de la bergerie. Pendant que les policiers creusent le jardin et sondent la cave, Spaggiari fait le malin.
Il avait les menottes. Il me dit, on peut se boire un verre de whisky que j'ai acheté en Écosse. J'ai dit, écoute, Berthe, quand tu auras payé ta dette, textuelle, hein, je n'invente rien, quand tu auras payé ta dette, le jour où tu sortiras, tu n'as tué personne. Ça n'a ni violence. Tu feras un bouquin, peut-être un film, et à ce moment-là, on aura l'occasion de consommer un verre de whisky ensemble. Voilà comment c'est terminé.
Les armes retrouvées à la bergerie suffisent à envoyer Spaggiari et sa femme en prison. C'est alors que les policiers lui proposent un marché. Il avoue le casse de la Société Générale et sa femme ne sera pas inquiétée pour les armes.
Tu avoues, la gloire est pour toi, et puis tu nous donnes quelques tuyaux et tout, et on t'amène devant le juge et tu t'en tireras avec 2 ou 3 ans de prison.
Avoué, pourquoi pas. Mais Spaggiari fait monter les enchères.
Spaggiari dit, moi je veux bien faire des révélations, mais je veux les faire en présence ou à Monsieur X. Et Monsieur X était un très proche collaborateur de Michel Poniatowski, alors ministre de l'Intérieur, si je me souviens bien. Donc là, on s'est aperçu qu'effectivement, Spaggeri connaissait très très bien ce monsieur et d'autres de l'entourage du ministre de l'Intérieur. Et on a envoyé à ce moment-là le contrôleur général Honoré Gévaudan pour un peu déminer le terrain. Hein.
Spaggeri veut bien avouer, mais devant un grand flic. Qu'à cela ne tienne, on lui envoie Gévaudan, l'un des grands patrons de la police judiciaire, qui débarque donc de Paris. Et en quelques heures, Spaggeri passe aux aveux.
L'idée lui est venue parce que c'est un monsieur qui voulait de l'argent. C'est un monsieur qui a fait des recherches, qui a regardé d'abord dans la Société Générale elle-même, et puis ensuite qui a regardé dans les égouts. Et tout ça, c'est une idée qui lui est montée il y a 2 ans, n'est-ce pas ? Mais qui a ou un an et demi. Et la réalisation est venue très tard.
Maintenant qu'il assume la paternité du CAS, Spaggeri explique pourquoi il a fait le coup. C'était pas pour s'enrichir. C'était pour des raisons politiques, pour financer la Catena, une soi-disant chaîne de solidarité fasciste dont personne n'a jamais entendu parler.
Est-ce qu'elle c'était uniquement l'argent ?
Bien sûr que non.
Est-ce qu'il y a des raisons politiques ?
Le 30 octobre, c'est le retour de Spaggeri dans la salle des coffres. Entouré de policiers, bien sûr. Cette reconstitution est un vrai théâtre de rue. Au premier rang du spectacle, les Niçois, fascinés par Spaggeri. Lequel Spaggeri, à l'intérieur de la banque, rend hommage au directeur.
Bravo, hein. Je placerai mon argent chez vous. Hein. Le mur, l'armoire blindée, hein, costaud. Hein. On a mis du temps pour l'avoir. Hein. Compliment. Alors, c'était une bonne ambiance à la bonne franquette lorsque tout ceci se disait et Albert jouissait de son public.
Spaggeri, devenu en quelques jours une star dans son genre, va maintenant jouer sa comédie devant le juge d'instruction. Richard Boisis veut connaître les détails du casse.
Richard Boisis, je voudrais que vous me racontiez votre première rencontre avec Spaggeri. Ça se passe où ? Dans votre bureau, je suppose ?
Oui, ça se passe dans mon bureau. Spaggeri venait faire l'objet de 48 heures de garde à vue. Il avait avoué la commission du CAS. Il en revendiquait être l'auteur.
Alors racontez-moi là, le face-à-face avec le bonhomme.
Le personnage d'emblée a adopté une forme de style humoristique dans le rapport. Nous étions sur une scène de théâtre. Il était en représentation.
C'est-à-dire quoi, il fanfaronne ?
Voilà, oui, il fanfaronne, mais gentiment, sans exagérer, mais tout en s'octroyant le statut extraordinaire. Je suis l'homme le plus important. Jamais en France on a fait ce que j'ai fait, en France et dans le monde. Et donc d'emblée, il revendique ce statut.
Ses motivations. On a parlé de motivation politique. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec lui ?
Ah oui, bien sûr, naturellement. C'était le principal et le seul à ses yeux. Sa seule motivation était d'ordre politique. Son projet, d'après ce que j'ai compris progressivement, c'était de constituer une équipe et de gagner de l'argent, de récupérer de l'argent pour venir en aide aux extrémistes italiens, mais de droite.
Parce que à l'époque, pour contrer les gauchistes.
Pour contrer les gauchistes qui commettaient régulièrement des attentats. Lui, son projet, c'était de faire exactement le contraire. C'est-à-dire avoir une énorme cagnotte pour venir au secours des Italiens. Et il avait appelé cette stratégie, ou la structure dans laquelle il s'inscrivait, il avait appelé ça la catena, qui veut dire la chaîne en italien.
Vous le croyez quand il vous dit ça ?
Bien évidemment, ça me paraît un peu suspect. Évidemment, la première considération, c'est que ce cas, ça a été fait par quelqu'un d'intelligent, dans un but, à l'évidence, criminel.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, lorsque vous l'avez dans votre bureau ? Parce que donc, les aveux, il les a faits, hein, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous attendez de plus ?
Non, les aveux, il ne les a pas faits. Ou les aveux, c'est la simple revendication de la commission des faits. Ouais. Il dit simplement, je suis l'auteur, c'est moi qui ai conçu le projet, c'est moi qui l'ai réalisé. Mais je ne vous dirai jamais comment, je ne vous dirai jamais avec qui, et je ne vous dirai pas pourquoi.
Les détails du casse de Nice, la manière dont lui et son équipe ont creusé le tunnel qui mène au coffre, Spaggeri les a racontés quelques années plus tard dans une interview pour la télé. Interview dans laquelle il apparaît déguisé et plus mégalomane que jamais.
on se couvre littéralement de merde. On crache, les premiers jours on crache, parce qu'on a toujours le goût de ce goût-là sur les lèvres, même en fumant une cigarette. Rien ne l'enlève. On se casse la gueule, on se tape la tête de partout. Enfin, c'est le vrai travail. Hein.
Spaggiari raconte comment il en a bavé pour ce casse. Il a commencé par se renseigner sur les coffres-forts dans une agence tout près de son magasin de photos. Ensuite, il lui a fallu reconnaître les lieux. Alors, 2 ans avant le casse, il a ouvert un coffre dans l'agence et vérifié au passage qu'il n'y avait pas d'alarme. Interrogé par les policiers, il refuse de révéler qui lui a fourni les plans des égouts. À l'époque, certains rappellent qu'il a ses entrées à la mairie de Nice. Alors, peut-être. Pour accéder aux égouts, il raconte qu'il est passé par la rivière souterraine du Paillon qui se faufile discrètement jusqu'au centre-ville. Pour monter son coup, il comprend vite qu'il lui faut l'aide de vrais truands. Il va leur proposer la moitié du butin. Pellegrin et Bourna, deux petits voyous niçois, sont chargés de contacter Poggi, truand du milieu marseillais. En surface, vient le temps des repérages. Les allées et venues du concierge, par exemple. Il faut se méfier de ses rondes le week-end. Pendant des semaines, Spaggiari et sa bande trimballent des kilos et des kilos de matériel pour creuser, étayer et ventiler le tunnel entre les égouts et la salle des coffres. Des centaines de kilos d'outils qu'il faut charrier à dos d'homme par ce minuscule collecteur entre le Paillon et les égouts. Un travail de forçat dans la chaleur, les excréments et la puanteur. Mais si, comme promis, cette descente aux enfers débouche sur le paradis, alors peu importe. Des rats.
Des rats, des quantités de rats. Alors là, pas de problème avec les rats, pas besoin du piège à rats, comme dans cet hôtel 4 étoiles. Non, pour les rats, le sourire. Affirmatif, le sourire avec les rats, la caresse même. L'un de nous avait presque apprivoisé des rats.
À la nuit tombée, les guetteurs sont en place autour de la banque, prêts à donner l'alerte. Le soir du 7 mai 76, c'est le premier coup de burin à cet endroit, dans le mur, au pied de la banque. 8 mètres derrière, il y a la salle des coffres.
Et donc ici, maintenant, nous attaquons le tunnel. Un premier mur pourri, et ensuite, tous les terrains possibles et imaginables. Du sable, de l'argile, une espèce de mortier que l'on appelle, j'ai oublié le nom, un mélange de terre et de pierre, qui est généralement très compact, et puis du rocher. Nous avons passé 10 jours, une fois, sur un seul rocher.
Après des semaines de sueur, Spaggiari et sa bande sont presque au bout de leurs efforts. Il ne reste plus que le mur de la banque au bout de ce tunnel.
Le mur, 1,80 m de mur, et alors le mur à l'ancienne. Hein, un béton qui a peut-être, je ne sais pas, peut-être 100 ans, parce que l'immeuble est très ancien déjà.
Et puis, le vendredi 10 juillet 1976, c'est la panique. On arrête tout. Le président Giscard d'Estaing est en visite à Nice. La police est partout. Mieux vaut évacuer les égouts. Une semaine plus tard, vendredi 17 juillet, les burins et les perceuses reprennent du service. À la nuit tombée, Spaggiari descend dans le Paillon avec une Land Rover chargée de dizaines de bouteilles d'acétylène et de chalumeaux pour découper les blindages. Après 2 mois et demi de travaux, le casse du siècle peut vraiment commencer.
Le vendredi soir, nous posons le vérin contre l'armoire et nous commençons à basculer l'armoire. Pierre, le chef de l'équipe marseillaise, me fait une révérence. À vous, maître. À vous. La bonne éducation. Je pénètre dans la salle des coffres. Il me suit, on s'embrasse. Et c'est la folie. La folie. Le Graal est ici. Vous allez le trouver ramassé. Les Templiers ont amené dans les coffres de la Société Générale tous leurs trésors. Ouais.
4000 coffres à ouvrir. Et là, débat technique. Spaggiari préconise l'utilisation d'un vérin pour forcer les coffres. Et les autres préfèrent la bonne vieille méthode du chalumeau et de la baramine.
Les gars, et c'est là que j'ai la colère, ont prétendu que non, c'est pas la peine. Le chalume et la pèse, monseigneur, ça suffit. La baramine, oui. Il nous a fallu découper chacun des coffres, le montant sur toute sa hauteur, et ensuite forcer à la baramine, à 3 sur une baramine, pour arracher la porte. Une fois que tout était découpé, les gants et les montants. Ça a été vraiment un travail de force dément.
Évidemment,
les truands font beaucoup de bruit. Et pour ne pas qu'on les entende dans la rue, ils ont colmaté la bouche d'égout au-dessus du tunnel. Et colmaté aussi les grilles d'aération de la banque. Et puis, le samedi soir, une surprise tombe du ciel, jusque dans ce coffre blindé.
On a commencé à entendre tomber les sacs d'argent qui arrivaient des galeries Lafayette, des boîtes de nuit, la Camargue. Il faut une sacrée recette, la Camargue. Hein. Oh là là. Et ce trésor de nuit, ça a été de l'argent que nous avons jeté en l'air. C'était la joie de tout le monde, donc une danse, une fête païenne avec de l'argent lancé de partout. Enfin, c'était le pied.
Pour se peaufiner un alibi, Spaggiari quitte la salle des coffres quelques heures, le samedi soir, laissant ses complices à l'œuvre. Il va dîner dans une brasserie à deux pas de la banque avec une amie et laisse un pourboire généreux pour être certain qu'on se souvienne de lui. Puis, il retourne dans la salle des coffres où s'accumulent les bijoux, les lingots et les sacs de billets. Le lundi, à 2h du matin, le 317e coffre vient d'être éventré quand Spaggiari et ses hommes s'aperçoivent que des orages violents ont fait monter l'eau dans les égouts. Le casse du siècle est en train de tourner au naufrage.
L'eau a monté un maximum, on ne s'en était pas rendu compte d'ailleurs. On savait qu'il pleuvait, mais sans plus. Dans la salle des coffres, on était tout à fait au sec. Là, pour évacuer le matériel, il nous a fallu marcher dans le courant, dans l'eau absolument jusqu'au cou, porter les poids sur la tête, tu vois le système. Et vraiment, le remonter surtout, le descendre, ma foi, on était porté par le courant, mais le remonter pour revenir chercher les sacs, nous avons fait trois voyages.
Ça a pris combien de temps, ça ?
Plus de trois heures.
À la sortie de la rivière souterraine, deux appels de phare brefs, puis un long. En face, le guetteur répond. La voie est libre. La voiture, avec 5 milliards de centimes dans son coffre, l'équivalent de 24 millions d'euros d'aujourd'hui, sort des égouts. C'est la fin du casse du siècle. Dans la salle des coffres, scotchés sur une armoire blindée, les voyous ont laissé un message qui va bâtir la légende. Ni armes, ni violence, et sans haine. Dans quelques heures, Spaggiari et sa vingtaine de comparses vont se partager le trésor dans une villa de l'arrière-pays.
Ce Spaggiari qui vous raconte son cas, il a l'air bien sympathique. Hein, il a de l'humour, il a un côté Arsène Lupin, il est séducteur, rigolard, romanesque. Un peu fou, mais sympa. En revanche, quand on rentre dans son passé, dans son histoire, le tableau se trouble un peu.
La Ragne, un petit village au cœur des Hautes-Alpes. C'est là que naît Albert Spaggiari en 1932. À l'école, ses copains l'appellent Spaghetti, comme souvent les enfants d'immigrés italiens. Son père décède et sa mère refait sa vie dans le Var, sur les hauteurs de Hyères. Pour le jeune Albert, c'est le début d'une nouvelle vie. À l'époque, son héros d'enfant s'appelle Salvatore Giuliano. C'est un bandit sicilien, collaborateur de la mafia, partisan de Mussolini. Adolescent, Spaggiari fait une fugue pour rejoindre son héros Giuliano. Il s'embarque pour la Sicile et pour le maquis de Montelepre, près de Palerme. Là, il fait des rencontres qui vont bouleverser sa vie.
Il avait été pris en main par deux hommes qu'il avait rencontrés, qui étaient l'un un Anglais et l'autre un Allemand, et tous les deux ayant servi dans l'un les troupes allemandes et l'autre la collaboration avec les Allemands. Et qui l'ont, à cet âge-là, endoctriné, le mot est fort, mais impressionné.
Giuliano le rebelle finit bientôt sous les balles des carabiniers italiens et Spaggiari est ramené par la police à Hyères, chez sa maman. À 17 ans, il s'engage dans les parachutistes et part combattre en Indochine.
La société a fait de Spaggiari à 17 ans un mec qu'on a envoyé assassiner des gens au nom de la République et de la liberté. il a tiré sur une petite fille, il le raconte comme ça, que cette petite, ça l'a marqué définitivement, comme on est tous marqués par notre enfance. Lui, c'était pas le biberon ou le Coca-Cola, lui, ça a été l'Indochine.
Padjari n'a pas été un héros, à Dien Bien Phu. L'histoire retiendra néanmoins qu'après avoir braqué la caisse d'un bordel de Saïgon, il a fini au cachot dans une prison militaire. À sa sortie de prison au début des années 60, Spadjari adhère à un nouveau combat. L'Algérie doit rester française.
Il était Algérie française. Il pensait que la valise ou le cercueil, un million de mecs à la mer, c'était pas supportable. Enfin, il était benoîtement urbain, comme il y en avait beaucoup à l'époque, hein, des gens qui pensaient ça.
Ce qui est certain, c'est que Spadjari a bien fait partie de l'OAS, car le 27 février 62, il est arrêté à Villefranche-sur-Mer, dans une imprimerie clandestine de l'OAS, et emprisonné à la Santé. C'est là qu'il rencontre trois détenus qui vont devenir ses amis pour toujours, Michel, surnommé le Toc, Marshall et Robert.
Un jour, on voit arriver un grand garçon, mince, élancé, un peu star, et puis grand sourire, bronzé, costard blanc. On dit, tiens, celui-là, ils sont allés le ramasser sur les boulevards Saint-Germain, au Flore. Ben non, on est devenus copains, quoi. En fait, c'était Albert, voilà. C'était Albert Spadjari. Il était fantaisiste, il prenait tout à la rigolade, il avait un cœur accroché, quoi. Il se foutait complètement d'être en prison. Enfin, il n'était pas pleurnichard, quoi, voilà.
Le chef de l'extrême droite d'alors, Tixier Vignancourt, devient la nouvelle icône politique de Spadjari. À sa sortie de prison en 65, Spadjari soutient donc sa campagne pour les présidentielles. À cette époque, il épouse Audi, une jeune infirmière avec laquelle il passe ensuite un an au Sénégal. Puis, il rentre en France et ouvre son magasin de photos. Et il s'installe dans cette bergerie de Bézaudun, dans l'arrière-pays, qu'il baptise du nom d'un chant nazi, les Oies Sauvages. Les Oies Sauvages, dont la boîte aux lettres affiche les sinistres initiales des Waffen-SS à côté d'une croix celtique. Spadjari affiche sans honte ses idées.
Est-ce que Spadjari était un facho? Bon, on a retrouvé chez lui des signes SS, hein, et puis il y a cette allusion sur sa boîte aux lettres aux Oies Sauvages. Est-ce que c'était un facho?
Oui, je pense que... Et il le revendiquait. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, 30 ans après, il y ait lieu d'avoir un débat là-dessus. Il revendiquait sa véritable inspiration d'extrême droite fascisante, qu'il se considérait comme un des derniers remparts de l'Occident. Ses écrivains dont il me parlait, ses écrivains préférés dont il me parlait, c'est des écrivains d'extrême droite. Il ne connaissait que cette littérature et il l'assumait, alors qu'il n'était pas de bon ton de l'assumer, il assumait son... alors que même ses origines sociales auraient dû le pousser vers quelque chose de plus à gauche. En réalité, il assumait...
Lui, le fils d'immigré.
Lui, le fils d'immigré, sa volonté d'être quelqu'un d'extrême droite, de combattant de la droite, et considérant que la France était un pays en voie de perdition parce qu'elle refusait ses valeurs de droite.
On est au début de l'année 77. Spadjari est en prison à Nice depuis 5 mois. Et il n'a désormais en tête qu'une idée, s'évader.
Il ne supportait plus la prison. Il ne pouvait pas. Il m'avait dit, bon, tu ne veux pas m'aider, d'accord, mais je ne vais pas suivre ton conseil. La prison, je ne la supporte plus.
Quand vous dites l'aider, qu'est-ce qu'il vous demande?
De l'aider, j'en sais rien, de l'aider, de favoriser son évasion. Je ne sais pas, on n'est pas allé plus loin, je lui dis non.
Deux de ses anciens copains de l'OAS se sont jurés de l'aider à s'évader. Ils pensent le faire à l'occasion d'un transfert vers le palais de justice. Et ils font des repérages à moto autour de la prison.
Quand il se faisait transférer chez son juge, nous avions suivi la camionnette de police, les motards, c'était impossible. On a étudié les possibilités de faire une action et c'est là où on a trouvé la fenêtre.
Sauté par la fenêtre du bureau du juge d'instruction au palais de justice, ils informent immédiatement Spadjari de leur idée.
Ils savaient qu'on allait venir l'arracher avec une moto, voilà. Il fallait un type sur la moto Il fallait quelqu'un qui nous renseigne de l'intérieur. Je ne le cite pas, il y avait 4 personnes, je vous dis, 2 annexes et 2 dans l'action, voilà.
Robert peaufine l'évasion jusque dans ses moindres détails.
Avec Indy ce matin, j'avais déjà déployé cette partie. Après, j'ai redéployé à peu près. Et après, j'ai mesuré combien faisaient ces écarts. Je l'ai multiplié par le nombre d'écarts. Et puis on était arrivé, je crois, pour près de 8 mètres, je crois que ça faisait. Hein. Et c'est comme ça que j'ai pu faire passer à Spadjari une photographie du lieu. Je lui ai fait passer un petit plan où il y avait cette descente là. Je lui conseillais de descendre en s'accrochant ici.
Le 10 mars 77, comme tous les jeudis, Spadjari arrive à 15h au palais de justice de Nice pour être interrogé par le juge Boisis. C'est le grand jour. Les amis de Spadjari sont en planque, mais Spadjari ne le sait pas. La personne qui devait le prévenir a mangé la commission. Il ne sait donc pas que Robert et Michel Di Lotoc l'attendent en bas avec une moto.
Spadjari, qui devait être prévenu, manifestement l'était pas. Pendant un moment même, je me suis approché de Michel, puis je lui ai dit « on décroche ». Ça me paraissait invraisemblable, quoi, de fixer cette fenêtre sans arrêt, sans arrêt. Et il m'a dit encore un moment, c'était un accrocheur.
Et puis, d'un seul coup, là-haut, dans le bureau du juge, Spadjari vient de comprendre.
Que c'est en signant ma feuille d'interrogatoire de ce jour-là que j'ai jeté un coup d'œil dans la rue et que j'ai aperçu mon ami sur le trottoir d'en face, qui attendait.
Il me voit, son visage s'éclaire, il est heureux, j'étais là, donc il savait qu'il y avait le Michel et la moto.
Problème, il y a des policiers dans le bureau du juge, son escorte. Pour les faire sortir, Spadjari a alors une idée. Il se met à parler de relations politiques qui l'auraient aidé dans le CAS. Par peur de fuite, le juge fait donc sortir les policiers. La voie est presque libre.
J'avais préparé un papier, les dessins des égouts, donc, que nous avons vus, à cheval sur 3 feuilles pour qu'ils n'y comprennent rien au départ.
Sur une question du juge qui lui disait « Mais vous m'avez raconté que vous étiez passé par ceci, mais ça ne correspond pas. » Et Albert lui dit « Non mais attendez, monsieur le juge, parce que je peux voir ce que vous regardez là, oui, si vous voulez. » Et il se lève à ce moment-là et il fait le tour du bureau du juge.
Je prends son crayon et je lui trace quelques mots. Je marque Paillon, je marque Égout Geoffredo ou n'importe. Il me dit, c'est bon, je les regarderai à tête reposée. Il les plie, les jette à côté de lui. Je lui dis, oui, c'est ça, et gardez-les bien précieusement en souvenir de moi. Il me dit, quoi? Et c'est là que j'ouvre la fenêtre et que je chante. Voilà.
Il saute sur un roulé-boulé, il tombe à mes pieds, il monte sur le siège et il fait au revoir au juge. Et moi, en même temps, je vois le juge. Qui criait à la fenêtre, évasion Spadjari, évasion Spadjari, et moi j'ai décroché.
Spadjari file plein gaz à travers Nice, place Masséna. Puis à 500 mètres du palais de justice, il s'engouffre dans un parking, direction le 4e sous-sol, où une voiture va prendre le relais. Spadjari monte dans le coffre, son ami Michel Le Toc prend le volant. Nice grouille bientôt de 3000 policiers et gendarmes sur les dents. Spadjari dans le coffre échappe de peu à un barrage. Dans le quartier du port, Spadjari, Robert et Michel se retrouvent enfin dans un appartement qui va leur servir de planque.
Et on s'est retrouvés, et là c'était un bonheur. C'est l'amitié qui explose. C'était ça, quoi. On s'embrassait comme des petites tantes, on était heureux comme tout.
Pendant ce temps, au palais de justice, le juge Boisis est comme sidéré par ce qui vient de se passer. Il se tourne vers l'avocat de Spadjari, qui a assisté à toute la scène.
C'était fantastique. Et le juge d'instruction regarde et me dit « Maître Perra, on est toujours le con de quelqu'un d'autre. »
J'ai eu une espèce de remords, de trahir mon petit juge. Je l'aimais bien, mon petit juge. Une sensibilité exacerbée, vachement intéressante. Lui m'aimait bien aussi. Mais ma foi, mieux les remords que les regrets, n'est-ce pas?
Pourquoi est-ce que vous faites sortir l'escorte de police qui est censée rester avec le détenu dans votre bureau pendant que vous l'interrogez? À un moment donné, vous
leur dites de sortir, vous retrouvez en tête-à-tête avec Spaggiari.
Oui, ben, en effet, c'est une décision que j'ai prise à cette époque, pour une raison simple que je peux indiquer, c'est que je m'étais très rapidement rendu compte que tout ce qui se disait dans mon bureau était connu des services de police, et toutes les autorités politiques locales étaient parfaitement au courant de ce qui se disait dans mon bureau. Et la confidentialité que j'avais mise en place, du fait précisément de l'absence de policiers, faisait que ça gênait beaucoup de gens. Ça gênait, cela embarrassait. Parce qu'on ne savait plus ce qu'ils disaient, on ne savait plus, on n'était pas informé du contenu de ces aveux. On ne savait pas qui ils mettaient en cause, on ne savait pas s'il parlait des faits, s'il parlait des politiques, s'il parlait de son passé, s'il parlait... Bon, et un certain nombre de gens ont vécu cela très mal.
Et vous avez eu peur à l'époque qu'il soit abattu pour ça, ou qu'on cherche à l'éliminer ?
Oui, oui, tout à fait. Et je pensais même que ceux qui pourraient l'éliminer étaient les gens avec lesquels il avait commis le casse.
On est toujours le compte de quelqu'un, ça vous rappelle quelque chose ?
Bah, en l'espèce, je l'ai été. J'ai été le compte Spaggiari, je dois honnêtement le reconnaître.
Spaggiari s'est envolé. La presse, déjà goguenarde après le casse, se régale de ce rebondissement.
Cette évasion, bah, ça a plutôt fait rigoler parce que le guignol avait donné une dérouillée aux gendarmes et aux juges.
On aurait dit un film hollywoodien, un type qui saute d'une fenêtre, qui est attendu par un complice à moto qui fuit comme ça à travers le Vieux-Nice. Bon, c'est spectaculaire.
Plus mégalo que jamais, Spaggiari fait alors un geste dont l'objectif est clairement d'alimenter la légende. Il envoie 5000 francs au propriétaire de la voiture qu'il a cabossée en sautant par la fenêtre. Et son avocat reste, lui, partagé entre condamnation et admiration.
Je pense qu'il fait une connerie, d'abord parce que je me dis, ils vont le rattraper, ils vont le trouver. Et alors là, ça aggrave, hein, ça fait une deuxième inculpation. Mais non, je crois que ce qui m'a... c'était l'exploit, quoi. Bravo, gonflé.
Tout cela s'est passé tellement facilement qu'on se dit, c'est pas possible, il y a dû y avoir quelque chose, on l'a laissé faire, c'est incroyable.
Spaggiari en cavale, c'est le maire de Nice, Jacques Médecin, également secrétaire d'État au tourisme, qui se retrouve dans la tourmente. Y a-t-il des connivences entre Spaggiari et des membres du cabinet Médecin ?
C'est un premier coup porté, les gens ne comprennent pas, brusquement ils se disent, cette famille, cet homme qu'on a porté au pouvoir, que tout le monde adule à Nice, bon, qui incarne à l'époque un peu l'avenir moderne de la ville, brusquement ils se retrouvent liés à des types quand même douteux, même s'ils ont un comportement que d'aucuns vont trouver chevaleresque. Bon, il y a un passé quand même bizarre d'activiste avec des condamnations, un casier judiciaire, etc. Bon, ça ébranle quand même les certitudes.
Spaggiari faisait partie de la catégorie des gens que je connaissais parce que je les voyais de temps à autre. Affirmer qu'un de mes collaborateurs ou plusieurs de mes collaborateurs aient pu entretenir avec lui des relations telles qu'ils aient à un moment ou à un autre apporté leur concours relève de la diffamation et de la calomnie la plus pure. Et ceci a été vérifié, contrôlé, et la police est en possession de documents qui démontrent qu'aucun de mes collaborateurs n'est jamais à un niveau quelconque intervenu en faveur de Spaggiari.
On a accusé Médecin. Ses opposants ont dit « Ah, mais il était au courant, il était dans l'affaire ». Mais c'est faux, voilà. Totalement faux, quoi. On peut pas tenir compte de tout ce qui s'est raconté dans la presse, quoi, bien sûr. Moi, je sais que c'était faux.
La justice va traiter le dossier Spaggiari en deux temps. Un an après l'évasion, elle commence par juger devant le tribunal correctionnel de Grasse l'affaire des armes découvertes à Bézaudun. Pour l'arsenal retrouvé dans la bergerie, Spaggiari prend 10 ans de prison par contumace. Mais le grand rendez-vous de Spaggiari avec la justice, c'est la cour d'assises, un an plus tard, pour le casse du siècle.
Les assises, j'aimerais passer aux assises. Si je trouve une demi-douzaine d'avocats assez enragés, assez fous, pour prendre le contre-pied de la justice. Si vous l'avez remarqué, les avocats jouent le jeu de la justice. Ils marchent avec la loi, exactement comme les procureurs. Si j'en trouve 6 d'accord pour aller contre la loi, j'accepte de passer en justice.
Spaggiari enfuite à des milliers de kilomètres de la Côte d'Azur, a beau jeu de rêver des assises. En tout cas, à Nice, personne n'a oublié sa sortie, là-haut, par la petite fenêtre. Et tout le monde guette maintenant son retour par la grande porte. Le 22 octobre 1979, à l'ouverture du procès au palais de justice de Nice, la rumeur dit que Spaggiari est dans les parages.
Les gens s'attendaient, parce que la presse l'avait laissé entendre, que Albert, en vertu de son... de sa vanité, de sa flagornerie, ne pourrait pas laisser passer un tel événement sans y venir d'une manière comme d'une autre. Il n'était pas fou, c'était pas pour revenir à cette occasion-là, il n'est pas venu, il n'avait jamais eu l'intention de venir, mais je me rappelle que tout le monde attendait.
Ben on l'attendait. On s'attendait peut-être à ce qu'il arrive, mais non, malheureusement non.
Albert ne viendra pas. Il faudra donc se contenter dans le box de la bande des supposés complices. Pellegrin, Bourna, Poggi, Michelucci et Vigier. Le procès du casse du siècle s'annonce plutôt comme le procès des sous-fifres.
Le dossier tel qu'il se présentait était un gros dossier, un très volumineux dossier, mais qui se termine par un petit procès. Car en fait... On n'a pas les complices.
Vous avez dans le box des accusés 5 accusés. Par contre, vous avez 15 avocats. Mais 5 accusés, et 5 accusés, et a priori, vous n'avez pas affaire au cerveau, vous n'avez pas affaire à des personnes qui ont eu un rôle manifestement, disons, très important dans ce cas.
Il n'est pas sûr, en effet, que les accusés soient des égoutiers, des vrais. Le casting est un peu minable. Bourna et Pellegrin, qui ont balancé Spaggiari, auraient été de simples guetteurs. Poggi a peut-être fait le lien entre Spaggiari et le milieu marseillais. Restent Michelucci et Vigier, qui semblent les plus impliqués dans le coup. Même s'ils se sont bricolés de pauvres alibis, prétendant avoir passé le week-end du casse au casino ou dans des restaurants d'Aix-en-Provence. Des alibis qui ne pèsent pas bien lourd.
Michelucci n'a eu qu'un objectif, c'est essayer de se sortir de cette affaire où il disait qu'il était innocent. Et il fallait qu'on reconnaisse son innocence, qu'il avait été peut-être manigancé, manipulé par certaines personnes, mais il était, en réalité, c'était une victime.
Le procès se dégonfle à vue d'œil. D'autant qu'au fond d'eux-mêmes, la plupart des acteurs de ce procès gardent une certaine admiration pour Spaggiari et sa bande.
Sans haine, sans violence, sans armes. Partant de là, eh bien, le commun des mortels rêve peut-être de pouvoir un jour partir avec quelques milliards sans avoir fait de mal à personne.
Ça a vraiment joué au cours du procès.
Terriblement.
Spaggiari passe les premiers temps de sa cavale dans cette tour de Puteaux, près de Paris. Il est hébergé par Emilia, une jeune nationaliste italienne fascinée par Spaggiari et qui devient bientôt sa maîtresse. Contraint à l'inactivité et toujours aussi fantasque, Spaggiari veut alors faire un nouveau coup. Il veut dérober le mètre étalon, l'unité de mesure internationale, jalousement gardée dans ce pavillon à Sèvres.
Il voulait devenir industriel, de faire d'autres casses, et il avait toujours des projets, quoi. Mais il était intenable, là. Il était un... disons qu'il ne s'était pas calmé. Le casse lui est monté à la tête, voilà. Donc, on a failli, nous, d'ailleurs, se frapper un jour. Je l'appelais le cerveau-nier, le cervelin niçois, il n'était pas content. J'ai perdu un ami, il est devenu quelqu'un d'autre, un peu louftingue. Il était louf, mais sympa, louf charmant, louf... Après, il est devenu louf emmerdant, quoi.
Et à cause de quoi? À cause de...
Du casse, ça lui montait la tête. Hein. Vous connaissez des stars qui deviennent cinglés, il y en a plein. Hein.
Adieu Albert Spaggiari, bonjour Romain Clément. Spaggiari s'est offert de faux papiers, carte d'identité, carte orange et passeport, ce qui va lui permettre de faire le tour du monde. L'Italie et l'Espagne, et puis l'Amérique du Sud. Spaggiari multiplie les déguisements et les facéties.
Mes projets, c'est-à-dire, ma foi, continuer à fumer des Havanes, boire du Dom Pérignon, avec les plus belles filles du monde, c'est dans les plus beaux coins du monde. Et puis voyager le plus beau coin du monde, voilà. Mes projets immédiats.
S'emmerde, énormément. Il était en exil, il s'emmerdait. Il dépensait pas d'argent, il sait pas dépenser de l'argent. Alors donc, il louait une villa par-ci, un appart par-là, que ça soit au Brésil, après en Argentine et après au Chili.
Et toujours aussi fanfaron, Spaggiari se fait prendre en photo, une fois déguisé en Père Noël, une autre fois en Jacques Mesrine. La presse complice du casseur fantoche s'amuse à entretenir sa légende.
Alors ses costumes, cravate, chemise et chaussures comprises, je les avais ce jour-là. C'est avec ces godasses que j'ai fait mon saut. Ne sont-elles pas belles?
La presse, la télévision et maintenant un livre. De sa planque sud-américaine, Spaggiari propose à un éditeur le récit du casse du siècle. En 78, Albin Michel publie donc « Les égouts du paradis » qui seront même adaptés au cinéma.
J'ai été amené à négocier les droits d'auteur avec l'éditeur. Puis, après ayant main percée, claqué l'argent, parce que la cavale coûte cher, monsieur, surtout quand on est un flambeur, ce qui était son cas, il fallait qu'il gagne de l'argent. Et pour gagner de l'argent, eh bien, il donnait des interviews.
Spaggiari s'offre même la plus chic des émissions de télé de l'époque, Apostrophe, de Bernard Pivot.
Albert Spaggiari vient de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé « Journal d'une truffe ». Alors je suis allé l'interviewer et pour lui demander, au fond, la question qui m'intéressait, c'était comment et pourquoi devient-on un voleur ?
Quel est votre nom ? Albert Spaggiari, officiellement.
C'est vraiment vous ?
Oui. Profession ? Selon mon identité du moment.
Enfin, votre première profession, enfin, par laquelle vous êtes devenu célèbre, c'est voleur.
C'est voleur.
Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Mais celui-ci, quand vous racontez votre enfance...
C'est pas gentil, ça, hein?
Non.
À la fin des années 70, Spaggiari, réfugié en Amérique du Sud, a un coup de cœur pour l'Argentine, en pleine dictature militaire.
Pourquoi l'Argentine?
J'ai acheté une petite vallée de 150 hectares, avec un torrent et une cascade de 9 mètres au milieu. Et puis, ma foi, les chevaux, ils sont les plus beaux du monde, les hommes aussi.
C'est un peuple accueillant.
C'est une synthèse de toutes les ethnies européennes. Le résultat de ce mélange, c'est la bonté, la force et le courage. Des caballeros locos, des chevaliers fous.
Mais son copain Robert avait raison. En exil, Spaggiari s'emmerde. Il veut rentrer en France et négocie sa reddition avec l'avocat Jean-Louis Pelletier, qui est aussi son copain d'enfance.
Alors, à un moment donné, Spaggiari en cavale prend contact avec vous. Ça se passe comment ?
Ça se passe un soir où je suis dans mon cabinet et très tard, le téléphone sonne. Je décroche, bien sûr, et quelqu'un qui me dit « Tu es encore là ?» Je dis « Oui ». « Tu travailles tard ?» Je dis « Oui ». Et il me dit « Tu ne m'as pas reconnu ?» Ben, je lui dis « Non, mais je pense qu'on doit se connaître puisque tu me tutoies ». Il me dit, je vais te mettre sur la piste. Je te parle de hier. Tu te souviens de hier? Je dis, bien sûr, j'y suis né. Il me dit, moi aussi. Et il me dit, puis si je vais un peu plus loin, parce que sa mère avait un magasin de lingerie, si je te dis soutien-gorge, lingerie. Je dis, c'est pas possible. Si je puis dire, j'ai percuté immédiatement. C'est toi. Il m'a dit, oui, tu m'as reconnu. Oui, je t'ai reconnu. Et j'ai dit, bon, et alors? Il me dit, alors, si tu veux, on peut se voir. Je dis, pourquoi pas? Où es-tu? Il me dit, je suis en bas. En bas de mon cabinet, il y a une brasserie. Il téléphonait de la brasserie. Alors, je lui ai dit, monte.
Ça se passe à Paris, ça, hein?
À Paris, oui, ça se passe à Paris.
Alors qu'il est supposé être en cavale à l'étranger.
Il est supposé, j'en sais rien. Le procès est vieux, on parle plus de lui. D'ailleurs, on parle si peu de lui que, à la différence faite qu'il s'était quand même fait refaire le visage, il allait partout, il se présentait partout. Il aurait même voulu, mais là, nous avons quand même des règles déontologiques, que je le rejoigne dans une grande brasserie pour bien me démontrer qu'il était là et que personne ne savait qui il était.
Il s'est marié, Spaggiari, pendant sa cavale.
Il s'est marié religieusement.
Oui.
Il s'est marié religieusement.
Où
Son union bénie par Monseigneur Lefebvre lui-même, mais c'est lui qui me l'a dit, et sa femme.
L'évêque traditionnaliste.
Et voilà, parce qu'il était très, très intégriste de religion, Albert Spaggiari. Et donc, il s'est marié à l'église qui est
Saint-Nicolas du Chardonnay.
Oui, Saint-Nicolas du Chardonnay, qui n'est pas très très loin de mon cabinet. Et ils ont poussé jusqu'à mon cabinet, ils sont venus me dire qu'ils étaient mariés.
Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, Spaggiari?
Alors, d'abord, il voulait, je crois, renouer avec son passé. Je représentais quelque chose. Et très vite, il m'a dit, écoute, j'en ai assez. Et puis, j'ai rencontré cette femme, je voudrais en terminer, je voudrais mener une... D'abord, il n'avait plus d'argent, il vivait peut-être de reportages que l'on faisait sur lui, auxquels il se prêtait. Et puis, il avait, je vous dis, une compagne qui se dévouait énormément pour lui sur tous les plans.
Donc, il voulait quoi, alors?
Eh bien, il voulait se rendre. Il voulait se rendre, mais il aurait voulu qu'il y ait une espèce de deal avec l'accusation et être certain, c'était son vœu, que la sanction ne dépasserait pas celle qui avait frappé celui qui avait été condamné le plus sévèrement dans son procès, c'est-à-dire à 8 ans.
Ouais.
Bon, c'était impossible à réaliser, d'abord.
C'était une folie.
Non, mais c'était une folie. Mais peut-être pas, regarde ce qu'il était. Mais lui dire à l'avance, tu peux venir, tu ne risques rien de plus que ce que tu souhaites, ça c'est impensable.
C'est totalement innégociable avec la justice.
Innégociable, mais pour lui comme pour n'importe qui, on ne peut pas négocier avec une cour d'assises dont on ne connaît pas à l'avance sa composition, les magistrats, les jurés.
Spaggiari a tout simplement envie de se balader à Montmartre, aux Champs-Élysées ou dans les cafés de la place d'Italie. Seulement voilà, il a quand même peur d'être démasqué.
Il s'était fait transformer le visage, mais en réalité, on le reconnaissait. Enfin, pour ceux, sa femme, ses amis, moi-même, très très bien. Même si, à une vue de quelqu'un d'autre, c'était pas évident, n'est-ce pas?
Il changeait sans arrêt d'endroit, mais il est venu souvent à Paris. Je suis allé au moins dans 4 endroits ou 5, ou pour lui dire bonjour, quoi, pour voir ce qu'il devenait, prendre de ses nouvelles, quoi, voilà. Mais j'étais inquiet, là, pour lui, parce que je disais, c'est pas possible, il y avait tellement de gens, il voyait tellement de gens, là, il fallait vraiment que la police ait relâché l'étreinte, là, vraiment, où les gens étaient curieusement pas trop bavards.
Spaggiari n'a pas renoncé à ses vieux démons. Il est invité à des dîners d'anciens de l'OAS et voit ses amis de l'extrême droite. Il a son couvert à la table de l'écrivain Alain de Benoît ou de l'éditeur Alain Lefebvre. Et désormais, il n'a plus l'air de craindre la police.
Il avait des faux papiers, bien sûr. Bon, c'était très relâché, ses recherches, ça faisait quand même des années, quand même. Alors, hein, bon, les poulets, ils croyaient pas trop, ou ils avaient peut-être plus trop envie, parce qu'ils passaient pour une bille s'ils l'arrêtaient 10 ans après.
Hein. Spaggiari, à la limite, on y était pour rien. C'était la faute de la justice en général, si c'était échappé, qu'on se débrouille.
J'essaierai de ne pas me faire prendre. À me faire prendre, je préfère que ce soit au 24e étage d'une tour. Finir bien.
Comme un parachutiste.
Comme un parachutiste.
Il rêve d'une mort aussi rocambolesque que sa vie. Mais rongé par un cancer de la gorge, il meurt le 9 juin 89 à Belluno, en Italie, dans les bras d'Emilia.
À 4h30 du matin, le téléphone a sonné chez moi. Et j'ai eu Madame Clément au téléphone, qui m'a dit « Maître, mon fils vient de mourir ». Je ne savais pas qu'il était malade à ce point-là. Hein. C'était pour moi une nouvelle importante et, disons-le-moi, douloureuse, parce que j'aimais bien Bert. Et me dit-elle en pleurant, nous allons le ramener chez lui.
Quelques heures après sa mort, Spaggiari est discrètement ramené en France par ses proches. Emilia place son corps dans un camping-car, passe la frontière en pleine nuit et à 4 heures du matin, le dépose à Hyères, dans la maison maternelle. Les obsèques de Spaggiari ont lieu le 14 juin 89 dans le petit cimetière de Laragne, le village qu'il a vu naître. personne ne songe à respecter ses dernières volontés.
S'il doit mourir, si cela peut arriver un jour, il ne veut pas, absolument pas être enterré dans le béton des cimetières. Ça, c'est la prison éternelle et sans aucune chance pour lui. Il veut être brûlé et dispersé sur sa terre.
Spaggiari est donc mort fauché, sans le sou, après avoir dépensé sa part du gâteau. Le reste du butin, personne n'a jamais su où il était passé. On imagine que des complices de Spaggiari ont coulé une retraite heureuse. Enfin, pas tous. Poggi, abattu en sortant de sa boîte de nuit, à Antibes. Vigier, assassiné lui aussi en sortant d'une discothèque à Toulouse. Jeannot Migosi, le chef présumé des égoutiers, abattu dans sa maison du Var. Les autres, on n'a jamais pu les identifier. D'ailleurs, est-on même certain que Spaggiari était le seul cerveau du casse du siècle?